notre cours. Alors, je ne serai pas trop long, peut-être pour ce soir. Alors, on va. On était du coup dans le chapitre. Oui, on est. Voilà. On était arrivé à l'exil. Mmh. Après donc les défaites des royaumes du nord et du sud. Alors, bien, Monsieur Romer dirait que le livre là de Finkelstein et de Finkelstein et Zilbermann, eh bien, dit que en gros toute la Bible a été imaginée au 7e siècle, à l'époque de Josias. En récupérant des traditions plus anciennes, mais que vraiment la cristallisation date de cette période. Bon. En tout cas, là, on se retrouve dans une période historiquement plus documentée, qui est celle du retour d'exil, jusqu'à la dispersion finale. Alors, ça va de moins 538, date du retour à Jérusalem de l'élite juive qui avait été déporté à Babylone, à 131, plus 131, qui est en fait la conséquence de la deuxième guerre juive. Voilà, Bar Kokhba. Donc ça fait 6 siècles et demi, à peu près, d'histoire. D'ailleurs, c'est quand même beaucoup, hein, parce que c'est la deuxième moitié de la chronologie traditionnelle de la Bible. Voilà. Alors, paragraphe premier, des Perses aux Grecs. Grand A, la domination perse. Petit A, le retour d'exil. Alors, vous vous souvenez que nos juifs, donc l'élite, avait été déportée en deux vagues, puis après, on a fini par déporter tout le monde. Et puis, on voit apparaître, justement, au milieu du VIe siècle, un nouvel empire. Vous savez, les empires naissent et puis ils disparaissent, puis il y en a d'autres qui arrivent. Spengler dirait que c'est comme les plantes, hein, ça pousse, ça, une efflorescence, puis après ça décroît. Enfin, ça se... Voilà. Et donc, on a eu les empires, vous savez, acadiens, assyriens, babyloniens. Et là, on voit arriver l'empire perse. Nabucodonosor, qui était le grand empereur babylonien, meurt en 562. Et ça plonge la Babylonie un peu dans la décadence. Et pendant ce temps-là, un roi perse qui s'appelle Cyrus va incorporer le royaume des Mèdes en 549. Donc les deux royaumes vont fusionner et il va se lancer dans une série de conquêtes qui aboutissent à un vaste empire qui recouvre l'Asie mineure, l'Asie centrale jusqu'en Inde. Enfin, vous voyez, l'Asie mineure, la Mésopotamie, et ça se poursuit sur le territoire actuel de l'Afghanistan et de tout ça. Donc un immense empire qui se constitue. Et en Babylonie, le prophète inconnu qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, le deuxième Isaïe, autrement dit les chapitres 40 à 55 du livre d'Isaïe, prophétise le retour d'exil. Au chapitre 40, il dit que le temps de la faute est expié et que Cyrus est le Messie, le défenseur providentiel, chapitre 45, et qu'Israël pourra retourner à Jérusalem sans avoir à passer par l'épreuve du désert, comme lors de la première entrée en à Jérusalem, et que non seulement Israël retournera à Jérusalem, mais en plus toutes les nations païennes s'accrocheront au basque des Juifs pour bénéficier de la promesse faite à Abraham. Et vous savez que dans la Bible juive, la Bible hébraïque, le dernier livre qu'on a placé, c'est le deuxième chronique, qui se termine justement par l'exaltation de Cyrus, qui est la figure du Messie à venir. Donc Cyrus, quand même, qui est un Perse. Actuellement, entre les Perses et les Juifs, bon, bref. En tout cas, le second Isaïe, par son universalisme et par la figure mystérieuse du serviteur souffrant, qu'on va réentendre là dans les semaines de la Passion, annonce sans le savoir le Messie véritable et le Christ. Hein, enfin, le Christ. Quand on lit ces oracles d'Isaïe, du Deutéro-Isaïe, on a l'impression de voir la Passion sous nos yeux. Et de fait, dans toute sa série d'invasions, Cyrus s'empare en 539 de Babylone. Et sa politique va consister à faire exactement le contraire de la politique des Babyloniens, évidemment, pour leur casser les reins, donc à favoriser le retour des exilés et l'autonomie des peuples de l'Empire, pourvu qu'ils soient fidèles au roi des rois, qui les encadre dans des provinces gouvernées par des satrapes. Alors, vous voyez, donc, il y a une sorte d'autonomie, etc., mais en même temps, il y a des gouverneurs, un peu comme feront les Romains plus tard, hein. Alors, les Juifs de Babylone demandent la permission de rentrer chez eux, qu'il aurait accordée. On a ça dans le livre d'Esdras, au chapitre 6. Par un édit qui ordonne en même temps de leur rendre les objets précieux du culte qui avaient été confisqués et conservés à Babylone. Et Cyrus va donc créer une entité autonome, un foyer national, si on peut dire. Hein. Vous voyez, quand même, les choses ne sont pas d'hier. Donc, une entité autonome d'environ 2 000 km², détachée de la province, de la satrapie de Samarie, et qui est la future Judée, qui sera confiée à un gouverneur juif, assisté d'un conseil, qui sera le futur Sanhédrin, qui représente les familles les plus considérables de la déportation, et donc qui retourne. Alors, on estime à environ 50 000 le nombre de juifs qui sont retournés. C'est quand même pas rien, hein. 50 000 qui sont retournés qui ont quitté la Mésopotamie pour la Judée. Songez quand même, c'est des gens qui partaient à l'aventure, hein, quand même. Et il s'agissait pour la plupart justement de gens riches, cultivés, croyants, qui furent évidemment mal accueillis par les gens du pays, c'est-à-dire les gens qu'on avait fait venir pour les remplacer. Et qui étaient en fait souvent des paysans, en fait. Hein. Et donc, alors, c'était soit des Juifs restés sur place et retombés dans le paganisme, ou dans l'hétérodoxie, un peu comme les Samariens, Samaritains, oui, voilà. Les Samaritains, vous vous souvenez, qui gardent que le Pentateuque et puis qui adorent sur le mont. Voilà. Garitzim, oui. Et puis des immigrants, donc des gens qui avaient été déplacés d'ailleurs. Vous savez, quand on déplace les gens, parfois ils perdent aussi leur tradition et ça les rend moins. Voilà. Donc des gens un peu frustes. Et beaucoup de Juifs, quand même, restèrent à Babylone, parce qu'ils trouvaient que finalement Babylone, c'était pas mal. Notamment, ils avaient fait des affaires. On pense par exemple à la famille Mourachou, qui était une des grandes familles de banquiers de Babylone, qui étaient en fait des Juifs qui avaient bien prospéré dans la déportation. Donc voilà un petit peu la situation. Donc une bonne partie de gens les plus croyants rentrent, souvent des gens cultivés, etc. Et puis une partie reste. Ceux qui vont rentrer, ils vont se retrouver face à une situation nouvelle. Alors, petit B, la reconstruction du temple et le relèvement de la ville. Le successeur de Cyrus, c'est Cambyse, en 530, dont on se souvient encore dans nos cours à l'école, oui, et notamment parce qu'il a pris l'Égypte. Cambyse a fait une campagne qui a permis de soumettre l'Égypte. Vous vous rendez compte que non seulement ils ont l'Asie mineure, la Mésopotamie, l'Asie centrale, mais en plus, ils ont l'Égypte.
Vous parlez d'Asie mineure, Asie centrale, c'est la partie nord,
Oui, c'est
pas,
ça.
pas le sud.
Ben, en fait, ils ont le sud aussi, parce que toute la partie phénicie, cananéenne, etc., ils l'ont
Je
aussi.
parle de Sud-Irak, Sud-Inde,
Ah ben, en gros, ça va de la Méditerranée à l'Indus.
Mais donc, jusqu'à l'océan Indien?
Ah oui.
Oui.
Ah, c'était un immense empire, hein.
C'est juste la partie médiane.
Et alors, Darius, qui succède à Cambyse, va en 522, va autoriser les Juifs à reconstruire le temple. Et on sait aussi dans le livre d'Esdras, au chapitre 6, reconstruction entreprise par le grand prêtre Josué et le gouverneur Zorobabel, petit-fils du dernier roi de Juda. Donc les Perses avaient eu l'élégance de nommer comme gouverneur un descendant de la famille royale. Et c'est eux qui, dans l'Apocalypse, sont désignés un peu comme les deux Oliviers, Josué et Zorobabel. Et il faut dire aussi qu'ils ont été un peu poussés par le prophète Agée, qui leur disait: vous êtes en train de vous reconstruire des jolies maisons, mais le bon Dieu, lui, il n'a rien, il n'a que des ruines pour l'instant. Alors donc, ça va être fait assez rapidement parce que Darius autorise ça en 522 et c'est achevé en 516. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Consacré en 515. Agée, donc le prophète, verra dans. Il fait partie des 12 petits prophètes. Il verra dans Zorobabel, justement, une figure messianique. Lui et le grand prêtre, hein, sont donc les deux oliviers, donc les deux oints, d'une certaine manière, qui se tiennent devant le temple, qu'on trouve dans le livre de Zacharie aussi, et que ça sera repris par Apocalypse. Mais, alors vous savez que la cupidité, pour ceux qui ont suivi ma conférence de Carême, la cupidité n'ayant pas de limite, et donc les Perses se mettent en tête de franchir l'Hellespont, et ça va mal va leur en prendre parce que Darius et puis surtout Xerxès vont être battus par les Grecs. Alors vous savez, il y a l'épisode amusant là de la tempête. Alors je crois que c'est Xerxès qui lance un pont de bateaux sur les détroits. Et puis une tempête qui rompt le pont. Et alors, comme il avait fait prier toutes les divinités marines possibles et inimaginables de son immense empire, il est vexé. Alors il fait fouetter la mer par ses soldats parce que flagellé. Oui, parce que les divinités marines n'ont pas été. On leur avait fait les sacrifices prescrits et elles n'ont pas tenu parole. Alors donc elles sont punies. Donc le roi des rois punit les dieux, vous voyez. Et puis bon, après les Grecs vont écraser, enfin vont battre les Perses. Mais vous imaginez quand même, c'est une armée gigantesque, hein, comme l'armée de Napoléon en Russie, hein, en matière d'effectifs. Et qui aura à peu près le même sort. Hein. Alors, oui, donc, alors qu'est-ce qui va se passer? Quand vous faites une guerre et qu'elle tourne mal, vous avez l'équivalent de Bercy qui se réveille et qui accroît la pression fiscale et donc qui mécontente en général les peuples qui, d'une manière générale, sont pas trop mécontents d'être dans un grand empire qui leur procure la paix, etc. Mais quand le Grand Empire a des ennuis, ben, il augmente les impôts et ça, les gens commencent à pas aimer. Donc ça va faire naître en Judée un climat d'insécurité. C'est l'époque du livre d'Esther dont la mise en scène dramatique au temps de la déportation à Babylone insiste sur la puissance de la prière. Mais c'est aussi une manière de dire y a des gens qui complotent notre perte et qui cherchent à confisquer nos biens. En fait, finalement, les hauts fonctionnaires. Alors, c'est aussi à cette période que le prophète Malachi va dénoncer, Malachi, l'affadissement de la vie religieuse à Jérusalem et les injustices sociales. Parce qu'évidemment, dans ces cas-là, vous remarquez très vite que les plus pauvres s'appauvrissent plus vite que les plus riches. Hein. Et le gouverneur Néhémie obtient de l'empereur du roi des rois, du chat Artaxerces, en 424, l'autorisation de relever les murs de Jérusalem, justement à cause de ce climat d'insécurité qui règne. Alors évidemment, c'est un peu le prétexte, mais c'est sûr qu'une ville avec des murs, ça fait capitale d'État, quoi. Et donc, du coup, on sent bien que les provinces cherchent un petit peu à accroître leur autonomie par rapport à l'Empire. Et alors, évidemment, le fait de se remilitariser va susciter l'hostilité des peuples voisins. Donc, on voit ça dans le livre de Néhémie, au chapitre 5, qui craignent à ce moment-là que les Juifs aient une certaine hégémonie sur les peuples environnants. La réforme, la reprise d'une certaine autonomie va s'accompagner aussi d'une réforme religieuse, éthique. On va chercher à réformer les mœurs. Par exemple, Néhémie supprime les dettes des pauvres envers les grands propriétaires, allège la fiscalité et lui-même renonce à son traitement de gouverneur. Vous voyez, c'est quand même assez rare. Hein. Tout en gardant des relations suivies et avec le monarque perse. Donc, on peut dire que c'est un gouverneur qui a, qui est plutôt bien. Alors, petit c, le judaïsme. Alors, les successeurs d'Artaxerces vont connaître des revers avec la révolte des satrapies occidentales, mais ils vont pouvoir compter sur la loyauté des Juifs, qui sont vraiment redevables aux Perses d'avoir retrouvé leur foyer national et qui gardent une alliance avec... Esdras et 5000 Juifs zélés de Babylone sont alors envoyés à Jérusalem. Ils vont accélérer la restauration religieuse. Et le texte de la loi est miraculeusement retrouvé. Et il est lu solennellement, on voit ça dans le chapitre 7 de Néhémie, avec les lu en hébreu et traduit par les Lévites en araméen, qui est la langue désormais... lingua franca, disons, de toute la région. Et donc, vous voyez, c'est un peu la redécouverte de la Bible telle qu'elle avait été finalisée par à l'époque de Josias au 7e siècle. Et le Pentateuch, avec ses 613 commandements, devient la loi d'État. Et Esdras poursuit la politique de purification ethnique de Néhémie en interdisant les mariages mixtes. Alors, donc il y avait des gens mélangés. Alors donc on les pousse vers la sortie. Et puis en plus, enfin, cananéens et juifs, en fait, c'est la même race. Hein. Les juifs sont devenus juifs parce qu'en fait, ils sont séparés sur le plan religieux. En quelque sorte, ils ont cultivé leur monothéisme et après, ils ont fait passer leur différence religieuse pour une différence ethnique. Et donc, tous les autres cananéens du lieu, désormais, sont considérés comme un peuple autre les futurs Palestiniens, en gros. Et ils vont être, eux aussi, considérés comme des gens de deuxième ordre, de deuxième zone. Vous voyez comment, intelligemment, en s'appuyant sur les Perses, ils se sont donné la possibilité d'une hégémonie politique qui va se traduire par une hégémonie, par une identité religieuse qui va leur permettre de créer une sorte de séparation avec les autres. Et donc, d'ethniciser la séparation religieuse, voyez.
Mais en Perse, comment ça se passait? Il y avait des mariages mixtes?
C'était beaucoup plus libre. Hein, c'est-à-dire que ça dépendait des peuples. Hein. Quand un peuple voulait garder son identité forte, ben, il la gardait dès l'instant qu'il ne gênait pas l'Empire. Et vous voyez, c'est assez intéressant. Par exemple, dans les Balkans, on voit un peu la même chose. Regardez. En gros, les Croates et les Serbes, c'est la même race, c'est la même langue, etc. Mais la différence, ils se sont séparés religieusement. La séparation religieuse va favoriser la séparation ethnique au point que les lexicographes serbes vont choisir le mot que les Croates ne peuvent pas comprendre pour le garder pour eux, et les Croates vont faire la même chose pour être bien sûr que les Serbes ne le comprendront pas. Donc ils vont même pousser, à différencier la langue, différencier tout. Mais en fait, à l'origine, c'est plus une différence religieuse, culturelle, les uns étant orthodoxes, les autres étant catholiques, qui a été là. Là, on a l'impression que la distinction, enfin du moins certains archéologues disent que la distinction entre cananéens et juifs, finalement, elle serait plus liée à une distinction de prise de conscience religieuse, des uns et pas des autres. Alors, résultat, donc c'est à ce moment que se creuse le fossé entre Samaritains et Judéens, si vous voulez. Autrement dit, le royaume du Sud reprend son autonomie politique et religieuse, et puis le royaume du Nord, finalement, il ne reprend pas son autonomie religieuse, il reste une satrapie dans l'orbite, justement, du royaume du Sud. Et c'est à ce moment-là que les Samaritains vont élever, pour marquer leur différence, un temple sur le mont Garizim en -333. Et en -200, la séparation est consommée. Les Samaritains, donc les anciens habitants du royaume du Nord, refusent d'inclure dans leurs livres sacrés les écrits des prophètes et ils ne gardent que le Pentateuque. Et oui, parce que les écrits des prophètes sont plus à la solde du royaume du Sud. Et c'est à travers cette politique de ségrégation que se constitue le judaïsme post-exilique, un judaïsme sans espérance nationale très précise, sans État vraiment indépendant, mais autonome tout de même, mais par contre avec une conscience très nette désormais de sa spécificité culturelle et religieuse, de son lien avec la loi, qui devient un absolu, au point que tous les autres monuments littéraires hébreu tombe dans l'oubli. Le monde juif post-exilique n'est plus structuré que par une loi religieuse et plus du tout par une loi, on pourrait dire, sociale ou politique. Et donc la loi devient un absolu avec la reprise en plus des sacrifices dans le temple reconstruit. Ça devient le critère d'identité vis-à-vis des autres peuples. Certains peuples se caractérisent par leur ethnie, d'autres, Israël désormais se caractérise par sa religion, se différencie par sa religion. Et le judaïsme va se définir par l'observance minutieuse des commandements de la loi, donc les 613 commandements, et tous ces préceptes seront abondamment commentés, actualisés par des écoles de scribes et de docteurs, hein, les docteurs de la loi. Donc on va voir se développer à côté de la tribu, entre guillemets, enfin de la hiérarchie sacerdotale avec les prêtres et les lévites, et ben tout un peuple de... toute une caste de docteurs et de scribes qui sont en fait les intellectuels de la, du judaïsme, un peu comme les aujourd'hui les cadis ou les, enfin vous savez, les juges islamiques, hein, qui, et puis donc il y a ces deux instances en quelque sorte, l'instance sacerdotale et puis l'instance, on pourrait dire, doctorales, qui vont être à la tête avec, vous voyez, un gouverneur et quelques grandes familles qui administrent au nom de l'empereur, au nom du chat. Enfin.